nous accueillons Serge au 3921. Bonsoir Serge.
Ah, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Je vous écoutais présenter. Oui, oui, ça va bien, je vous remercie. Très bien, oui, confiné, mais bien.
Oui, mm-hmm. Un peu comme tout le monde donc.
Voilà, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde.
Oui, oui. Pourquoi enfin, comme tout le monde?
Ben, parce que longtemps, je me suis considéré comme quelqu'un de différent. Et en fait, comme tout le monde, c'est quand même beaucoup plus agréable.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, je disais cet après-midi que souvent, je dis ici, à force d'écouter les gens me raconter les épreuves qu'elles traversent, Et en fait, je dis souvent que si on parle de ces épreuves à celle ou celui qui va les traverser, il va vous répondre 9 fois sur 10, non, je serai incapable de surmonter ça, je le serai. Et je disais cet après-midi que bon nombre de personnes, si on leur avait parlé de ce confinement avant, auraient dit non, mais c'est impossible pour moi, je ne supporterai pas ça. Et finalement... vous dites comme tout le monde, et je trouve que c'est exactement ce qui se passe pour bon nombre de personnes dont je fais partie, le fait que le monde soit ralenti, presque immobile, et que tout le monde soit au même régime, eh bien, je trouve que ça aide vraiment à accepter notre condition là, et puis à avoir la conscience de ce qui se passe, en tout cas avoir plus la conscience de ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Des grands élans de solidarité. Là, je suis dans une rue dans le 14e arrondissement de Paris où tout le monde, vers 8h, à 8h exactement,
oui.
Claque des mains, souffle dans les trombones. C'est formidable, une très belle ambiance, une grande solidarité, je trouve.
Oui, voilà. Pour tous les personnels soignants qui se battent pour ralentir ce coronavirus. Bon. Alors Serge, vous vouliez me livrer un message, je crois, ce soir.
Oui, je voulais vous parler des alcooliques anonymes.
Oui.
Voilà, vous dire que on est en permanence 24 heures sur 24 auprès d'un téléphone,
oui.
Qu'on a réussi à rameuter tous nos membres de façon à ce qu'ils répondent comme souvent, tout avant le coronavirus, avant le confinement, on répondait à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux gens qui voulaient bien nous appeler en leur disant qu'il y a une solution. Et donc, il y a un numéro qu'on peut trouver sur Internet. Il suffit de taper alcooliqueanonyme.fr. Mais je vais quand même vous donner le numéro.
Allez-y, je vous en prie.
S'il vous plaît. 09 69 39 40 20. 09 69 39 40 20. On trouve ça sur le net hein, en tapant alcooliqueanonyme.fr. Donc ça, c'était très important de dire, enfin pour nous, moi je suis un membre voilà, des alcooliques anonymes depuis un certain temps, et de vous dire que malgré ces événements tragiques, eh bien, on est là pour ceux qui souffrent et qui sont confinés avec leurs problèmes d'alcool et ou problèmes de rechute ou des choses comme ça. Voilà.
C'est très important, surtout en cette période qui doit être propice à la gamberge par rapport à ces problématiques d'addiction. Vous le ressentez comment, vous, par rapport aux membres d'Alcooliques Anonymes? Vous avez pas mal d'appels?
On a des appels, on a un peu moins d'appels. On dirait que ce confinement fait que les gens n'osent pas téléphoner ou disent bon, ça doit être sûrement fermé, alors que voilà, mon on va pas dire mon cri hein, mais disons bon, vraiment ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'on est ouvert et vraiment on est là pour accueillir ceux qui souffrent. Est-ce qu'ils souffrent plus? Bien sûr. Comment on fait pour aller chercher des bouteilles quand on est accro comme certains peuvent être en ce moment? C'est difficile, faut sortir, enfin voilà, si on en trouve en plus. C'est...
Vous pensez que c'est très compliqué,
sûrement,
c'est,
en ce moment.
C'est plus compliqué, vous pensez?
Je pense que c'est plus compliqué et aussi, voilà, la honte qui est là comme d'habitude pour ceux qui sont aux prises avec,
oui,
avec
oui.
L'alcool.
Mm-hmm.
Hein. Moi, j'étais aux prises pendant une bonne vingtaine d'années. Et je m'en suis sorti grâce aux alcooliques anonymes, vraiment. pour aujourd'hui, hein, c'est toujours.
Oui,
pour aujourd'hui.
Oui. Mais justement, je ne vais pas vous lâcher comme ça, Serge, parce que vous m'avez entendu énoncer que voilà, on allait ouvrir un peu plus largement cette libre antenne à le jour où, en fait, pouvez-vous me raconter le jour où vous avez pris cette décision d'arrêter et comment ça s'est passé parce que c'est toujours important pour celles et ceux qui nous écoutent là ce soir.
Et
ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude parce que là, on est vraiment chez nous. Donc, il y a la radio ou la télé, ce qui augmente particulièrement le nombre de personnes qui écoutent en ce moment la libre antenne. Comment vous avez fait ?
Alors, le jour où, en fait, y a, voilà. Puis en même temps, c'est vraiment, si j'ai quelque chose à dire, c'est un message d'espoir. Voilà. Et je ne pensais pas que ça serait possible, mais ça m'est arrivé grâce à la vie, quoi. Et donc, il y a eu plusieurs jours où je me suis dit, vraiment, c'est le moment, c'est le jour, je te jure, plus jamais je boirai. Et puis, ça n'a jamais marché. Plusieurs jours comme ça, pendant... Dès que j'étais accro à l'alcool, où je ne pouvais pas m'empêcher de boire... avec toute la culpabilité qui va avec, les angoisses et tout le bazar qu'on dit chez moi en Belgique.
Il y avait une raison particulière à cette consommation d'alcool ?
J'ai pas trouvé la raison. Je pense, enfin, j'ai des pistes. Je pense que c'est une espèce d'ultra sensibilité et un orgueil, voilà, latent qui est là et puis moi, c'est pas pareil, voilà.
Oui. Voilà. Moi, c'est jamais pareil que les autres.
Ouais. C'est insupportable à vivre, hein, pour les autres aussi, surtout. Ouais.
Mais ça devient supportable, je crois, le jour où on rejoint la communauté des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes, lorsqu'on découvre que finalement, moi, eh ben, je ne suis pas si différent que les autres qui sont là. Et je crois que c'est ça la grande force du groupe, en fait, et de ces réunions. Vous avez percuté ce jour-là, vous, quand vous...
Donc ce jour-là, Olivier, c'était la veille. Malheureusement, je suis obligé de... Enfin, non, pas obligé de raconter tout, mais vraiment, j'avais tout essayé pendant les 10 dernières années pour essayer d'arrêter de boire, et ça n'a... Comme ça n'a jamais marché, j'ai fait des cures, j'étais voir des psys, j'ai supplié des marabouts africains. Enfin bon, j'ai fait vraiment tout, prier le bon Dieu dans les églises ou les statues, hein, on va dire, parce que je n'avais pas la foi, véritablement la foi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais... Et puis, donc, la seule solution était d'en terminer. J'ai donc avalé une cinquantaine de cachets de saloperies et je me suis... bien sûr, réveillé, mais pas tout de suite. Hein. J'ai fait un petit jour de coma à la ENEC, qui est un hôpital parisien. Et là, voilà, c'est cette journée, réveillé, et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'étais complètement perdu, avec un drogué d'hôpital bleu, et pas de ceinture, parce que j'avais... souiller les vêtements, un réveil, 5 jours de coma. Et là, il y avait un gars que j'ai vu tout de suite, avec qui on a parlé un peu. Et lui faisait partie des alcooliques anonymes. J'avais le peu d'humilité qui m'était tombé dessus, a fait que j'ai pu l'écouter.
Oui.
Il m'a raconté... j'ai un peu d'émotion pour raconter tout ça, mais... Et lui m'a... Ce qui était formidable. Il est mort dans l'alcool après. Il savait qu'il allait mourir. C'est un gars, Bernard, il s'appelait Bernard, et il a, comment dire, il a été sobre pendant 7 ans, et puis après, il s'est remis temps pendant plusieurs années. Et là, il était à l'hôpital pour d'autres raisons, il était hémophile. Bref. Mais quand même en réanimation, parce qu'il n'y avait pas d'autre place, ils n'ont pas trouvé d'autre place qu'à côté de ma chambre. Lui, il m'a parlé des alcooliques anonymes, j'avais les oreilles ouvertes et enfin le cœur prêt à entendre ça.
Oui.
Avant, je ne l'aurais pas entendu.
Mm-hmm.
voilà, là, cette journée est formidable, et j'ai voulu tout de suite aller chez les AA, Alcoolique Anonyme. Donc, et ça, depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, ça marche.
Vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous avez dit le peu d'humilité. J'aurais dit le reste d'humilité que vous aviez ce jour-là, qui était peut-être infime, mais cette humilité qui souvent fait que on va attraper la main qui se tend, cette main qui s'est tendue plusieurs fois à nous et qu'on n'a pas su saisir parce que ce n'était pas le moment, parce que voilà, on était
parce que l'orgueil faisait l'orgueil que fait je beaucoup. Vais m'en sortir tout seul.
Oui, parce que c'est souvent ça le problème en fait lorsqu'on veut se sortir d'une addiction, c'est que l'on croit. Alors ça, je vous le dis en ayant écouté beaucoup de témoignages par rapport à tout cela, on croit qu'on va s'en sortir tout seul et on perd beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi lorsqu'on essaie tout seul parce que visiblement c'est impossible seul.
Seul, c'est... J'en connais quelques-uns qui le font, mais avec les poings serrés. Mais c'est très mystérieux, des fois, des gens sans passer par quoi que ce soit, par aucune cure, d'un seul coup, j'ai déjà entendu ça. Bon, mais ça, c'est très rare, on va dire. Mais le fait d'avoir pu, à ce moment-là, parler avec quelqu'un qui connaissait son histoire. Moi, j'avais vu des psys. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. En même temps, je les ai pas écoutés. Mais lui, Bernard, il lui parlait vraiment. Il avait fait les mêmes choses que moi, les mêmes conneries, planquer ses bouteilles, dire, jurer sur la tête des enfants, je boirai plus jamais.
Oui.
Voilà, ça, je l'ai fait. Et ma femme est partie. J'avais une agence de publicité. Bon, mon associé m'a viré, il a bien fait, de toute façon, on ne pouvait plus bosser ensemble. Et je me suis retrouvé presque dans la rue, hein, en 81.
Ah oui.
83. Ouais.
Oui, c'est dingue.
C'est pour ça que j'ai avalé ces cachets, parce que je ne voulais pas terminer dans la rue, quoi. Voilà. Ça va jusque-là, hein, c'est terrible. Je suis désolé de plomber cette émission.
Non, vous ne la plombez pas du tout, parce que je pense à tous ceux qui sont à l'autre bout, là, qui écoutent, qui écoutent vos mots. Et qui sont aussi dans un alcoolisme, vous voyez, un alcoolisme comme ça, qui
solitaire,
est latent, solitaire, qui savent, au fond, d'eux, qu'ils ont un problème avec ça, mais qui, pour l'instant, peut-être repoussent ça plus tard, se disent que ça n'est pas si grave, que, voilà, on va encore naviguer un certain temps comme ça, mais qui savent déjà que ça n'est pas normal.
C'est un problème.
C'est un problème.
On a beaucoup de coups de téléphone qui vont dans ce sens. Et en même temps, si ça peut aider du monde, on a un joli questionnaire sur le site des Alcooliques Anonymes et qui commence par « Êtes-vous un alcoolique ?» avec une vingtaine de questions, 12 questions. Bon, voilà, ça donne un aperçu de ce que... Voilà, de ce qu'on est, enfin de ce que... Moi, j'ai eu une très bonne note, hein, là-dessus, bien sûr.
Ah oui, oui.
Mais bon, voilà, voilà, ça marche, les alcooliques anonymes, vraiment.
Ça marche, ça marche.
Faire... Oui, ça marche. C'est un des trucs qui marche le mieux, c'est un mouvement mondial, on est 3,5 millions dans le monde.
Oui.
Et on compte pas les fraternités sœurs, je sais pas si on peut dire ça. Mm-hmm. Les fraternités sœurs, comme les narcotiques anonymes, voilà, et puis toutes les autres.
Ça marche parce que on le voit aujourd'hui à travers même les séries. Il y a toujours un moment dans la série, un personnage qui va participer à un groupe de parole. Bon nombre des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs ont bien détecté l'importance de ces fraternités. Je parle de fraternité dans tout le sens large du mot parce que on trouve, bien évidemment, dans ces groupes de parole de la fraternité, de l'humanité, de l'humilité, et surtout avec des gens qui, comme vous, aujourd'hui ont 20 ans d'abstinence, mais qui sont passés par le même chemin que par où vous vous apprêtez peut-être à passer, vous qui nous écoutez aujourd'hui et qui avez envie à la fin de ce confinement d'aller dans une réunion aux Alcooliques Anonymes,
oui.
qui comme les...
Ou en tout cas de téléphoner. Oui.
Exactement. Et ça marche. L'un de mes amis, vous le connaissez puisque vous êtes devenu son parrain. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui pour moi était loin et qui connaissait pourtant, mais il lui a fallu beaucoup d'humilité aussi pour se laisser guider là et ça marche parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui quand je le vois, à chaque fois c'était une grande joie pour moi et presque des moments de grâce à chaque fois que je l'entends évoquer ce passé parce que
il a même fondé une famille donc,
exactement et celui qui
n'aurait pas pu faire dans l'alcool
non absolument pas et celui qu'il était hier comme bon nombre de ceux qui ont compris que ça marchait celui qui était hier est parti en tout cas il est loin j'ai l'impression c'est franchement de plus en plus de jeunes rejoignent les Alcooliques Anonymes vous est-ce que vous trouvez le message passe mieux? Est-ce que vous sentez que les gens viennent plus?
On a, on va dire, un arrivage. Je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça. Mais, donc sur Paris, parce que je connais Paris, bien sûr, et je me déplace aussi en province pour voir d'autres groupes. Mais en ce moment, on sent la tendance, c'est que les jeunes boivent de plus en plus tôt. Donc ils arrivent vers des amis qui viennent, qui ont entre 25 et 30 ans. Ce qui rajeunit un peu le mouvement quand même, parce que c'était pas évident non plus. Et donc on est là pour les accueillir. Et là aussi, je ne sais pas si c'est plus difficile, mais il faut vraiment toucher le fond, enfin son fond.
Oui, parce que 25-30 ans, arrêter... Ouais. Oui, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué d'arrêter l'alcool parce qu'il y a un côté festif.
Je crois que j'aurais pas pu arrêter à 25 ans, moi. C'est pas possible. J'étais le roi du pétrole.
Qu'entendez-vous par là ?
J'étais le roi du pétrole. Je pouvais pas, vraiment, je n'imaginais pas la vie sans alcool. Mais malheureusement, au fil des années, j'ai descendu jusqu'au fond. Une fois qu'on a touché le fond, eh bien, à ce moment-là, on peut... Voilà. Il y en a qui... La formule, c'est mourir plutôt que de se rendre. C'est un truc de Gainsbourg, ça.
Oui.
Voilà, je pense que c'est dans une chanson. Mourir plutôt que de se rendre. Il y en a qui font ça. Moi, j'ai échappé à ça. J'aurais pu, si j'avais un peu plus d'orgueil, j'aurais pu mourir, simplement. Mmh. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est 30 ans de vie supplémentaire, on va dire ça. Hein. J'ai failli y passer pas loin. Hein. Et bien, ça m'a donné un sens à ma vie. Vraiment. Hein. Un peu je me sens le cœur plus ouvert, je me sens utile aussi. J'ai changé de boulot, j'étais plus dans la pub, voilà. Et plein de choses. J'ai refondé une famille.
Aussi. Oui. Ça a donné du sens. Ça donne du sens de vivre, en fait. C'est ça, en fait.
Le sens de la vie. La grande question, Olivier, que je me posais, c'était pourquoi tu vis ?
Ouais.
Beaucoup de personnes se sont posées cette question. Pourquoi je suis ici sur Terre ? Pourquoi ? Eh bien, je n'ai pas du tout trouvé la réponse quand j'étais dans l'alcool. Et depuis que je suis sobre, je ne dis pas, ce serait très orgueilleux de dire que j'ai toute la réponse, mais j'ai une partie de la réponse.
Ah, en tout cas, c'est plus clair, les quêtes sont de toute façon plus claires lorsqu'on dit que sans alcool, sans drogue, on affronte la réalité, bien évidemment, sans ces filtres. Mais plus on met de filtres dans cette réalité, moins on y voit clair. Hein. Finalement, ce sont des mots assez simples dont on parle là, mais il est vrai que beaucoup d'entre nous consomment de l'alcool, des drogues, parce que difficile d'affronter le quotidien, le monde du travail, parfois la violence que cette société produit en permanence.
Mais le meilleur anxiolytique.
Mais finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Serge, mais quelle force lorsque on finit par l'affronter sans tout ça, et combien on est beaucoup plus fort, parce que c'est ça en fait, ce à quoi ce qui est difficile à comprendre, et ce à quoi on a beaucoup de gens qui boivent ou qui prennent des drogues pensent que ça n'est pas possible, qu'ils n'y arriveront jamais, mais finalement finalement, quand on y arrive...
Ça marche, mais il y a des trucs qu'il faut vraiment apprendre. Il y a un truc formidable qu'ils m'ont dit. Moi, c'était j'arrête, c'est terminé, je boirai plus jamais de ma vie. Mais arrêter toute sa vie, c'est monstrueux. Alors, même si les AA m'avaient dit, les alcooliques anonymes m'avaient dit, Serge, ok, bienvenue, il faut que tu arrêtes un mois. J'aurais dit, mais non, un mois, je ne peux pas. Ouais. Ils m'ont dit autre chose. Ils m'ont dit, essaie de ne pas prendre le premier verre uniquement pendant 24 heures. J'espère qu'on nous écoute et que certains entendront. C'est le premier verre qui saoule. C'est pas la deuxième ou la troisième bouteille que tu vas aller chercher. C'est le premier verre. Dès que tu prends le premier verre, malheureusement, moi je suis fait comme ça, je suis obligé d'en boire un second, un troisième, et bien malgré moi. Vraiment. Et pourtant, j'ai une volonté pour plein d'autres choses. Mais pour ça, j'ai jamais pu modérer ma consommation.
Et on sait combien nous sommes à devoir faire une croix sur ce premier verre ou sur ce premier joint, cette première ligne, hein, ce premier saut dans le vide, hein, finalement, il faut l'imaginer comme ça. Ce premier saut dans le vide où on ne sait pas où ça s'arrête, comment. Et souvent, en fait, malheureusement, ce premier verre, en fait, il peut... Oui, c'est ça, il entraîne toute une soirée et un moment où on ne sait plus ce qu'on fait.
Alors, on ne sait plus ce qu'on fait et presque il y a des comas éthyliques éveillés, ça s'appelle. Et j'ai une anecdote comme ça, enfin, voilà, c'est pas très gai, mais bon. Puis c'est la vie d'un alcoolique pratiquant. Je préférerais vous raconter la vie d'un alcoolique qui s'en est sorti pour aujourd'hui, grâce aux alcooliques anonymes. Mais là, cette anecdote, c'est, j'ai reçu un coup de fil un jour, le lendemain.
Alors, si vous le voulez bien, Serge, on va laisser passer le flash de 23 heures avant que vous évoquiez cette anecdote, parce que je veux pas vous couper en plein milieu. Non, mais ne vous excusez pas, c'est moi qui m'excuse de vous couper en plein milieu. Comme ça, on aura tout le temps de l'écouter. Je rappelle que vous aussi qui nous écoutez, si vous avez envie, comme Serge, d'évoquer le jour où quelque chose a marqué votre vie, n'hésitez pas. On se retrouve tout de suite, Serge.
D'accord, pardon. Oui, ok.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Europe 1, radio ouverte.
Europe 1, plus que jamais, se mobilise pour vous accompagner.
Pour vous informer, pour vous divertir aussi.
7 jours sur 7, nous bousculons nos programmes pour vous offrir, grâce à un dispositif technique exceptionnel,
une radio ouverte à toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos réactions.
Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte.
Et pour nous joindre, un seul numéro, le 3921.
50 centimes la minute. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur.
Europe 1, Radio Ouverte.
Europe 1, il est 23h. Le journal de la nuit, l'info, Isabelle Millet.
Et 186 nouveaux décès ont été recensés en France en 24 heures, ce qui porte le bilan à 860 morts depuis le début de l'épidémie. Plus de 2000 patients sont en réanimation. Parmi les victimes figurent 20 résidents d'un EHPAD de Cornimont dans les Vosges et 4 nouveaux médecins qui ont succombé, ce qui porte à 5 le nombre de décès parmi le personnel soignant. Ce soir, le ministre de la Santé a indiqué que le Haut Conseil de Santé publique recommandait de n'utiliser la chloroquine, vous savez, c'est ce traitement antipaludéen, qu'uniquement pour des formes graves, des cas sévères. Le gouvernement suit les recommandations du Haut Conseil de Santé publique. Pas de généralisation donc, mais du cas par cas, sachant que ce médicament n'a pas encore suffisamment fait ses preuves. Édouard Philippe s'est quant à lui exprimé aux 20h de TF1 ce soir. Il a annoncé la fermeture des marchés ouverts. Mais il précise que des dérogations seront possibles, en particulier dans les petites villes où les marchés sont parfois l'une des seules options pour pouvoir acheter à manger. Il annonce également que les sorties sportives sont désormais limitées à un rayon rayon d'un kilomètre et une heure maximum. La prolongation du confinement sera quant à elle décidée demain après la réunion et l'avis du conseil scientifique composé de 10 experts. Le temps du confinement peut durer encore quelques semaines, a dit ce soir le Premier ministre. Et puis concernant l'organisation des obsèques, Édouard Philippe indique que 20 personnes maximum pourront désormais y assister. En Grande-Bretagne, Boris Johnson, jusque-là frileux à prendre des mesures, a finalement annoncé ce soir des mesures de confinement similaires à la France. Les Britanniques sont confinés pour au moins 3 semaines. La pandémie s'accélère, mais sa trajectoire peut être modifiée, dit ce soir le chef de l'OMS, qui réclame un cessez-le-feu immédiat et mondial et qui appelle les pays à passer à l'attaque en testant tous les cas et en plaçant en quarantaine leurs proches contacts. Et vous, comment allez-vous? Comment vivez-vous cette épreuve collective à titre individuel? Comme chaque jour, les résultats de notre enquête sur le moral des Français en partenariat avec BVA et Orange. Premier enseignement, dans un contexte de polémique accrue sur la pénurie de masques, sur la stratégie de dépistage ou sur la mise en place d'un traitement à base de chloroquine, les Français se montrent de moins en moins confiants à l'égard de la qualité des informations qu'ils reçoivent sur le virus de la part des pouvoirs publics. Seuls 45% sont confiants, mais aussi de la part des médias, 47% seulement. Une situation qui nourrit l'inquiétude sur l'évolution de la crise. Chaque jour, la proportion de personnes qui pensent que le pire est devant nous augmente pour atteindre aujourd'hui 81%. Corollaire de ce résultat, le déclin du moral des Français observé hier se confirme avec une note moyenne de 6 sur 10. La proportion de personnes très optimistes diminue jour après jour, 8% seulement aujourd'hui, contre 10% hier et 12% avant-hier. Et évidemment, vous pouvez retrouver le détail de cette enquête très intéressante sur notre site internet europe1.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à minuit pour le journal de la rédaction. D'ici là, vous êtes bien sûr toujours en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne.
Et à tout à l'heure, Isabelle.
À tout à l'heure, Olivier.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 4 minutes. Et si vous nous rejoignez juste maintenant, vous êtes sur Europe 1, sur votre radio, celle qui écoute le monde changer, le monde bouger, celle qui vous écoute, chers amis. Et quoi de mieux que cet espace de la libre antenne pour vous exprimer et pour vous raconter, comme Serge le fait ce soir. Serge qui nous a appelé pour nous rappeler que le standard des alcooliques anonymes était toujours ouvert, que si vous aviez besoin de parler à un moment, que si vous aviez besoin d'échanger, eh bien vous composiez le 09 69 39 40 20, 09 69 39 40 20, et ce standard est ouvert 24 heures sur 24, parce que là-bas, on sait que vous avez besoin de parler, besoin d'échanger, donc ils sont là. Et vous évoquiez, Serge, donc oui. Votre vie, hein, le jour où vous avez fait une croix sur ce premier verre, et vous alliez me raconter une anecdote, justement. Alors, je vous écoute.
Oui, bon, c'est, en même temps, j'aimerais être aussi positif, et puis surtout, je profite pour vous remercier de nous accueillir, hein, et de pouvoir dire que qu'on est toujours à l'écoute 24 heures sur 24 sur le numéro que vous avez demandé. Donc cette anecdote, c'est hélas la routine de l'alcoolique pratiquant. On parle de coma éthylique éveillé, et j'avais un meilleur ami, mon pote. Vous savez, vous avez un pote, Olivier,
oui.
Le vrai pote. Mm-hmm. Celui avec qui j'avais fait les études. Voilà, j'étais à son mariage. Et voilà, j'étais le parrain de sa fille aussi. Voilà. Et un jour le lendemain, on va dire, d'une soirée qu'on avait passée ensemble avec sa famille, j'ai reçu un coup de fil de mon ami et qui me dit « Ne reviens plus jamais chez moi. » Je dis « Mais qu'est-ce que je fais ?»« Je vais te dire ce que tu as fait. On s'est battu. Tu as dragué ma femme. Hein. » T'as emmerdé les enfants comme c'était pas possible. En sortant t'as embouti ma voiture et tu m'as injurié plus que je ne supporte. Ne reviens plus jamais chez moi. Voilà. J'avais perdu mon ami. Je ne savais même pas ce que j'avais fait. Je ne m'en souvenais plus.
C'est fou.
Ça,
c'est fou.
Ça m'est resté longtemps. Est-ce que ça m'a empêché de voir? Non, au contraire, ça m'a fait beaucoup. J'avais besoin de calmer cette émotion. J'avais besoin de calmer ça, donc j'ai bu encore et encore et encore. Et puis un jour, on arrête de boire comme ça, je sais pas, on va pas dire par l'opération du Saint-Esprit, mais j'ai rencontré les AA et je suis allé en réunion. Là, j'ai rencontré des gens qui avaient le même problème que moi. On a parlé des mêmes choses. Et puis, à mon tour, après, j'ai pu transmettre le message. Je suis même allé Providence a fait ça aussi. Transmettre le message à un gars au Cameroun. Je connaissais pas le Cameroun. J'avais vécu à Dakar, mais je connaissais pas le Cameroun. J'avais toujours essayé de changer ma condition en disant peut-être que au soleil ça ira mieux. Et là, je suis devenu clochard tropical. Voilà ce que j'étais à Dakar. Et je suis resté 6 ans là-bas. Et voilà. Enfin, bon, bref.
Tout ça s'est empiré. Tout ça s'est empiré à Dakar, je suppose. Ouais.
Oui. Ça s'est vraiment empiré. Oui. Là, c'était des quantités. 45 degrés dehors et 45 degrés dedans.
Oui.
Un peu comme ça. Mais pour rester dans les anecdotes un peu positives, un jour, il y a un vieux bonhomme, un de mes amis qui vient, enfin, que je connaissais. Très vieux bonhomme. Il me dit, mon fils est en train de mourir là-bas, à Maroua, au Cameroun. Maroua, c'est une ville, enfin, on va dire, un bidonville de 400 ou 500 000 habitants. Et ils avaient une base vie là-bas, une pataugeoire, enfin, genre piscine, des cases et tout ça. Il dit, va le voir, Serge, va le voir et essaie de faire quelque chose. Moi qui ai vécu là-bas en Afrique et on était venu me dire il faut que tu arrêtes de boire, j'aurais pris le fusil. J'aurais lâché les chiens.
Oui.
Tu vois. Et donc on est quand même. Il m'a tellement bassiné. Je devais avoir 2-3 sauts de côté. On est tous allés à Venn là-bas avec ma fille. On a fait un peu d'excursion. J'ai vu le gars. Tout de suite, j'ai vu comment il était. Il était comme moi quelques années auparavant. Et je le laissais tranquille un moment. Puis un jour, je me suis retrouvé à 7h du matin, en train de boire mon café. Lui était déjà avec au whisky, mais il n'avait pas encore bu. Il avait la bouteille à côté de lui. Et je lui ai raconté mon histoire. Et ça a marché. À midi, il n'avait pas bu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si. C'est bien une idée. Mais je lui ai raconté tout ce qui est. Je lui ai raconté le premier verre. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu. Et ce gars-là, il est sobre de maintenant depuis 25 ans.
Sûrement a-t-il vécu ce que vous avez vécu ce jour-là à l'hôpital. C'est-à-dire que jour-là, il avait le reste d'humilité qu'il lui fallait pour se rendre compte que finalement, le garçon qui était en face de lui avait vécu lui aussi la même chose et que pourtant il était blanc, pourtant il avait une toute autre vie que lui et que vous étiez réunis, vous étiez réunis dans le même.
Et les alcooliques anonymes, en fait. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Si quelqu'un, je connais plus la formule, demande de l'aide, eh bien, on est là. On est là pour le problème.
Ce qui est certain pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez et qui avez conscience d'avoir un problème avec l'alcool ou avec autre chose, ce qui est certain et ce que nous vous promettons ici, maintenant, ce soir, c'est que vous ne vous sentirez jamais plus seul le jour où vous aurez mis les pieds dans une réunion. Croyez-moi, chers amis.
Vraiment, merci Olivier de dire des choses comme ça.
Mais je le dis parce que je le pense profondément, Serge.
Mais je sais.
Et parce que je sais que ça marche.
Okay.
Mille merci à vous en tout cas pour votre intervention. Vous nous rappelez quand vous voulez. Et puis vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi nous appeler, vous raconter comme Serge ce soir. Ça fait du bien, non, hein, d'entendre ce chemin de vie. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup et puis bon courage et bon vent, mon cher.
Merci. À 24 heures à la fois, tout le temps.
Exactement. Chaque jour, une journée à la fois. Au revoir.